caméléon, de quelle couleur es-tu aujourd'hui ?
Roméo, oh Roméo, mais pourquoi n'ai-je pas de boulot ?
Question d'adaptation, va-t-on trouver la solution ?
Adaptation, adaptation ! Mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?
Dans notre CV, on a tous mis comme qualité faculté d'adaptation. Parce que si nous ne sommes pas adaptables, nous ne sommes pas employables.
Et nous nous sommes rendus compte que tout n'était pas qu'une question d'adaptation.
Bonjour, nous sommes une association, la Maison des chômeurs. Nous sommes avec l'association Wakadi, on a quelque chose à dire. Et ensemble, on va mener une émission radio. Le thème est adaptation de vie. Et on a dû s'adapter à pas mal de contraintes radiophoniques pour vous proposer cette émission.
Est-ce que vous auriez un mot, une phrase pour définir votre situation actuelle dans votre parcours de vie ?
Un coup de peau.
Je suis resté 12 ans à RMI et j'ai trouvé du boulot à 40 ans passés. Vous voyez, vous pouvez garder l'espoir.
Très compliqué. Vu ma situation de famille, je suis en instance de divorce avec des violences conjugales.
Comment vous êtes-vous adapté ?
Là, je redémarre à zéro, comment dire. Je cherche un logement, me rééquiper de A à Z pour pouvoir mieux vivre avec mes enfants. C'est-à-dire que je ne me laisse pas aller, c'est le but, parce que si on se laisse aller, on part dans une déprime. Donc le but, c'est d'être toujours de l'avant et de penser que l'avenir sera meilleur que celle de hier.
Ma situation actuelle est assez bonne, je dois dire. Je n'ai pas de problème ni financier ni de travail. Pour moi, dans la vie, tout va bien pour le moment, ça va. Je ne me projette pas trop dans l'avenir, je vis au jour le jour et voilà. Sans penser à ce qui pourrait arriver de mauvais, en tout cas, dans l'avenir. Voilà.
Alors Diane, à 3 ans et demi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?
Passe à roulette.
Voilà.
Un reclassement professionnel. C'est ça, j'ai fait une formation, j'ai eu un diplôme et je suis en reclassement professionnel. Voilà. C'est un licenciement en fait. Je n'étais pas du tout dans cette branche-là, c'était un licenciement et après je n'ai pas trouvé de travail, donc il a fallu que je réfléchisse.
Oh non, on est dans la merde. Eh bien, la résolution, je m'ai trouvé la gueule à la rue, mais non, j'ai 52 ans où je trouve du travail. Ton mari te quitte, tu te retrouves dans la rue, comment tu prends ? Tu vas danser, tu vas jouer la nice. Non, tu prends mal. Et tu dois le prendre comme ça aussi. Avec tous les malheurs qui sont derrière. Voilà. Rien vous dire d'autre. Et une bonne journée.
Je suis heureuse.
J'essaie de me lever chaque jour en même temps que mon copain. C'est pour garder le rythme. Mais même si t'as ton esprit qui te crie bouge-toi, mais des fois, y a ton corps, il suit pas. Ces matins-là, quand la porte claque, quand mon copain part travailler, il y a ce sentiment de vide qui m'envahit d'un coup. Même parfois, mais je mange pas. Pour moi, on nourrit son corps que quand il a bien travaillé. La seule façon que je vois pour s'en sortir, c'est de regarder en face ses qualités, ses défauts, de les travailler pour t'améliorer. Ça permet de mieux s'adapter aux situations de la vie. Dans ma vie professionnelle, je suis bien passée d'un milieu ultra féminin à son extrême. De la French manucure à l'huile de moteur. Je peux vous dire que mes mains s'en souviennent. Hein. Et aujourd'hui, retour à la case départ. Avec en plus l'étiquette honteuse de chômeuse collée sur le front. S'adapter à différents milieux de travail. J'y suis arrivée une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, je suis rodée. Hein. Je passerai la quatrième sans difficulté. C'est plus une question d'adaptation. Quand la vie et ses aléas vous mettent dans des situations difficiles et qui se répètent encore, encore. À ce moment-là, c'est l'esprit et le corps qu'il faut sauvegarder. L'esprit surtout.
Il y a une phrase que j'ai retenue. Jacques Segala a dit « Si on n'a pas une Rolex à 50 ans, on n'a pas réussi sa vie ». Quand j'étais directeur de supermarché, ma Swatch, elle me convenait très bien. Mais comment vous dire ma frustration quand j'ai su que j'étais licencié économique ? Après ce licenciement, tout a changé pour moi. Je me suis rendu compte du poids des représentations à partir du moment où j'ai tout perdu. J'ai eu l'impression de perdre mon rôle dans cette société, et du coup mes repères. Comment allais-je m'adapter ? J'ai dû m'éloigner de certaines personnes de ma famille, de gens proches, d'amis, qui jugent sur le niveau social, pour rester positif face à l'avenir. D'avoir déçu leurs attentes alors que ce licenciement n'était pas de mon fait, c'est difficile à supporter. Ma mère me dit souvent, avec tout ce que tu as fait, comment as-tu pu en arriver là ? Le matin, je pars de chez moi toujours avec ma sacoche. Cela me donne une contenance. Il y a dedans mes agendas, mon planning et des documents utiles. Je me sens plus à l'aise avec cette sacoche, car les gens pensent que je vais travailler. Mon adaptation à moi par rapport à ces changements est de tracer une médiane entre ma vie, mon bonheur, mes espoirs, mes engagements personnels et associatifs. Et ce que les gens, l'institution, la société attendent de moi. C'est comme ça que j'arrive à me sentir le mieux. Je me lève tôt le matin, j'ai les horaires réguliers, plusieurs activités. Bref, surtout, je ne me laisse pas aller, car je tiens à avoir une bonne image de moi-même. De toute façon, j'ai toujours l'heure à mon panier gauche, que ce soit une Swatch ou pas.
Ouais, bonjour, la Maison des Chômeurs, l'association créée. Je suis très contente que vous m'ayez invitée. Effectivement, je suis sociologue depuis longtemps. Maintenant, je suis même enseignante et chercheure en sociologie. Et donc, j'ai effectivement travaillé sur des sujets qui peut-être peuvent nous rassembler. Au tout début, j'ai d'abord travaillé sur la drogue, la toxicomanie, c'était les années 80. C'est pas que ça commençait, c'était déjà pas mal entamé comme mouvement. Et puis après, j'ai travaillé sur l'exclusion en général. Donc là, c'était plus complexe, puisque au lieu d'une seule catégorie de population qui souffrait, je m'en suis aperçue qu'il y avait toute une liste, et qui n'est jamais finie en fait. Et puis maintenant, je travaille sur l'imaginaire, parce que je pense que tout ça, ça va se régler par la pensée d'abord.
Alors quand on vous dit adaptation, qu'entendez-vous par ce mot d'un point de vue sociologique uniquement ?
Bon, ça c'est un concept qui est neutre au départ, c'est un concept utile, puisque effectivement un enfant qui naît, il naît dans un environnement. Donc toute son éducation, toute la socialisation, ça va être justement de lui apprendre à s'adapter à son milieu, que ce soit le milieu écologique, s'il naît dans la savane ou s'il naît dans une grande ville, on ne va pas lui apprendre les mêmes choses. Bon, et après, tout au long de la vie, c'est une adaptation. Après, on s'adapte à l'école, il y en a qui trouvent ce système adéquat. Il y a tout un tas de cultures, par exemple, qui ont beaucoup de mal à faire avec l'école, parce que ce n'est pas leur culture, justement. Bon, donc, tout au long de la vie, on s'adapte. Après, on s'adapte au métier qu'on fait, on s'adapte à l'entreprise. Bon, c'est un concept qui est utile. Maintenant, il faut l'agrandir. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être dans cette logique où c'est l'individu qui s'adapte à tout. C'est ce que dit Desjours, là. Là, les cadres dans les entreprises, on les a adaptés à n'importe quoi. C'est-à-dire, il y a du rendement, tout le monde fait ça. Les médecins, ils sont en rendement, les assistantes sociales, ils sont en rendement. Bon, donc on peut même dans les camps de concentration, ils ont réussi à survivre, ils faisaient de la solidarité, etc. Donc l'humain, il a des grandes capacités d'adaptation. Maintenant, c'est peut-être justement aux structures de s'adapter aux humains, à l'environnement de s'adapter aux humains, puisque nous, on sait changer les choses, on sait construire des villes, on pourrait construire des villes plus écologiques. Voilà, on peut aussi adapter le reste. Et à ce moment-là, vous voyez, on inverserait la logique et on construirait un monde qui soit adapté à l'humain.
Vous avez parlé de notions tout à l'heure d'imaginaire. Pouvez-vous expliquer un petit peu, plus approfondir cette notion-là comme solution ?
Bon, déjà dans l'imaginaire, c'est tous les produits de l'imagination. Voilà comment on pourrait le définir. Tout ce que les hommes ont produit comme œuvre d'imagination. Donc c'est des idées, c'est des monuments, c'est des utopies, mais c'est du dur aussi. Par exemple, l'idée de République, si on ne l'avait pas inventée, elle n'existerait pas. Donc je pense que plus on est créatif, plus on va ouvrir des mondes qu'on ne connaît pas. Donc faut pas baisser les bras sur l'imagination. Parce que la solution, là, on ne l'a pas sous les yeux. Mais avec un peu de créativité, peut-être qu'on va l'inventer. Goffman, Erving Goffman, qui est un sociologue de l'interaction, lui, il a étudié qu'est-ce qui se passe quand deux personnes se rencontrent. Et Zimmel aussi, par exemple, qui est plus ancien. Tous les deux vont dire, ben, on cherche à se ramener à quelque chose de connu quand on ne connaît pas quelqu'un. Et en fait, on a des catégories de pensée connues, ça va, je le connais, il me ressemble. Et inconnu, il ne me ressemble pas, il n'est pas des miens, il n'est pas de ma culture. Donc là, d'emblée, on classe, connu, inconnu. Et il y a le comportement qui va avec. Connu, on va être sympa, on va être familier, on ne va pas avoir peur. Inconnu, on va être sur une position de rejet, de défense, etc. Ça, ce sont des catégories figées. L'imagination, elle peut changer ça. Ça, c'est notre culture. Toutes les cultures, elles sont comme ça. Mais on peut s'émanciper de sa culture et inventer une autre forme. Ou même si on n'a pas d'idée, on peut au moins retenir les autres cultures qui ont une autre approche. Alors, il y a très peu de cultures qui, justement, n'ont pas d'a priori avec les étrangers. C'est ce qu'on appelle, au lieu du racisme, l'exotisme. Voilà, ça c'est pour nous, les Occidentaux, c'est faire un effort d'imagination. C'est-à-dire, traiter l'inconnu sous une forme positive, on ne sait pas faire. Nous, inconnus, ben, on passe notre chemin. Et c'est ça, c'est ce travers de notre pensée qui est en train de s'exagérer. Et donc, c'est par nos capacités de création et d'imagination qu'on va pouvoir sortir de ces catégories mentales de pensée que nous avons.
Même si mes parents pensent le contraire, depuis ma majorité, j'ai eu l'impression d'être un poids pour eux. Pour moi, à partir de 18 ans, on n'a plus le droit à l'erreur. Je considère qu'on ne peut plus fuir ses responsabilités. Quand j'ai eu 18 ans, mes parents aidaient mon frère qui était au chômage. Pour moi, c'était pas normal. C'était plutôt lui qui aurait dû les aider. Des fois, il faut s'adapter, on n'a pas le choix. Plusieurs fois, j'ai proposé à mes parents d'arrêter mes études pour travailler. Finalement, dès que les vacances scolaires arrivaient, je faisais des petits boulots. C'était un soulagement d'apporter mon aide à la maison. Mon frère, c'est mon exemple. Je l'ai toujours vu réussir. Il avait un bon boulot, un bon salaire, une vie dynamique. Et puis un jour, chômage. Et là, j'ai ressenti un sentiment d'impuissance car je ne pouvais pas l'aider. Cette situation m'a fait beaucoup de peine. Ne pensez pas que les difficultés arrivent qu'aux autres. Moi, c'est comme ça que je l'ai appris. Aujourd'hui, je continue mes études et même si je suis encore dépendante de mes parents, j'en suis fière. Mais là, c'est sûr, je ne peux pas le prendre à la rigolade. Ce sentiment d'être une charge pour mes parents me donne aujourd'hui l'envie de me battre pour réussir mes projets à venir. Je ne me donne pas le choix. En fait, je dois y arriver. Mon frère, lui, a fini par s'en sortir. Tout ça, ça m'a persuadée que quand on veut, on peut.
Plus on est de fou, moins y a de riz, donc il faut s'adapter.
À l'époque, je pensais que tout était facile. J'ai arrêté les études pour travailler et la galère a commencé. En fait, j'ai passé ma vie à m'adapter à de nouvelles situations, à chercher la stabilité et je la cherche encore. Ma phrase fétiche, c'est « la vie ne vaut rien mais rien ne vaut la vie ». Pour l'instant, je m'habitue à vivre sans travailler. Et ça, c'est pas mon choix. La vie m'a appris qu'on ne sait jamais. D'ailleurs, j'ai toujours espoir de retrouver du travail. Cette force qui m'accompagne tout au long de ma vie s'appelle l'amour. Et j'aimerais en faire ce que j'appelle la religion de l'amour. Ce serait une grande boule de feu, pleine de sentiments et d'énergie positive, qui nous aiderait, moi, comme beaucoup d'autres, à garder l'espoir. Seul, c'est trop dur. Mais je m'aperçois que dès que je fais partie d'un groupe, ça me rebooste, ça m'anime. Les mots sont parfois destructeurs. Insertion, assistance, bénéficiaire de, exclusion, solitude et injustice. Aujourd'hui, dans le groupe de l'association créée, je lutte contre le poids des mots et je suis toujours dans la défense des droits. J'en ai marre de ressentir toute cette souffrance, celle des autres, la mienne. En fait, je ne m'adapte pas à cette situation où on ne mange pas à sa faim, les restrictions sont quotidiennes et dans laquelle on nous rappelle sans cesse qu'on est redevable. Et si ensemble on s'y mettait pour transformer ce monde en le rendant un peu plus humain?
Il y a beaucoup de chercheurs, là aussi beaucoup de philosophes qui ont pensé à qu'est-ce que serait la meilleure société, comment on pourrait faire pour vivre tous bien ensemble. Par exemple, Christophe Dejour, la souffrance en France, lui, il ne comprend pas. Il se dit, mais comment ça se fait qu'on supporte ça? Comment ça se fait qu'on supporte tout ça? Alors, il dit que justement, c'est insupportable et que on se galvanise. Enfin, vous voyez, on se rend fort et ça veut dire on se rend fort, on se rend indifférent. Et donc, quand on voit les SDF dans la rue, on se dit, bon, je ne vais pas les regarder, comme ça, je vais vite les oublier. Il appelle ça la société du mensonge. C'est-à-dire que si on est des vrais humains, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que bien sûr, quand on voit des enfants pieds nus dans la rue, moi ça m'a fait ça, à chaque fois que je vais dans les pays du tiers-monde, ça me fait trop mal, quoi. Donc on se blinde, c'est-à-dire on ne les regarde pas, on dit bah, « tiens, j'oublie ». Voilà, et donc il explique ça comme ça, il dit « puisqu'il y a tant de souffrance aujourd'hui, c'est parce qu'on tous, on ferme les yeux, parce que sinon on ne pourrait pas vivre ».
Si je devais peindre l'adaptation, j'utiliserais les quatre couleurs de l'arc-en-ciel pour faire des mélanges sans limite.
La famille, l'école, le logement, le travail, c'est partout tout le temps qu'on doit s'adapter.
Notre réflexion a porté sur les formes d'adaptation dont l'individu était capable, et surtout sur celles que l'on connaissait. Et maintenant, on se demande à quel point la société s'adapte à l'homme.
Nous remercions la sociologue Martine Xiberas d'avoir répondu à nos questions.
Merci à Capucine de l'association Wakadi à Montpellier de nous avoir aidés pour cette émission. Wakadi, ça veut dire « on a quelque chose à dire ».
Merci aussi à Jacqueline de l'association Créée pour son soutien.
Toutes les deux ont dû s'adapter à nos personnalités.
Pour réaliser cette émission, il y avait Caroline, Asma, Patricia et moi Bruno.
Merci pour votre écoute.